Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Caroline Gervais. Elle nous parle de sécurité affective, elle nous livre son témoignage sur le sujet. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la peur du regard des autres. Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique, Le cerveau n'est pas adulte à 25 ans. On commence en chanson avec Faust, la chanson s'intitule Pull Marine. Bienvenue chez nous.
Nous sommes Folie douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre.
J'accueille en studio notre invitée Caroline Gervais. Bonjour Caroline.
Bien, bonjour Yvan.
Bonjour, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup.
On est content que tu sois là. Tu nous as contactés puis je trouve ça intéressant. Ce que tu fais, en fait, tu vas nous parler un peu de ton parcours de vie en santé mentale, mais c'est une histoire assez intéressante qui n'a pas toujours été facile. tu as vécu l'abandon, l'insécurité affective depuis longtemps. Il y a eu un manque au niveau des besoins affectifs comme personne. Tout le monde a des besoins affectifs, il faut qu'ils soient comblés. Peux-tu nous présenter un peu plus qui tu es, puis on va évidemment échanger là-dessus, puis aussi donner espoir. Je pense que c'était un peu ça l'idée de se rencontrer là, pour donner espoir aux gens qui nous écoutent.
Ben oui, effectivement, Yvan, tu sais, ça me fait plaisir d'être ici. Merci de me permettre de venir parler de mon parcours. Puis oui, c'est ça, les gens qui se auto-stigmatisent, encore beaucoup de stigmatisation. Puis ça l'encourage l'auto-stigmatisation. Puis les gens, dans le fond, ils s'isolent, tu sais, ils peuvent s'isoler avec ça. Donc, moi, je parle de mon parcours. C'est mon objectif principal, c'est d'aider ceux qui sont encore dans l'isolement à sortir puis parler pour entamer le chemin du rétablissement.
Oui, parce que ça n'a pas toujours été facile, comme on disait. Je pense que tu as eu une période assez difficile, spécialement entre 20 ans et 30, quelques années. Là. Ça, tu l'as pas eu facile, comme on dit?
Ben non, c'est ça. Dans le fond, de 20 ans à 30 ans, j'ai vécu 7 hospitalisations. Puis ben là, ça fait 15 ans que je suis rétablie puis j'ai pas vécu d'hospitalisation.
7 hospitalisations en santé mentale, là.
Oui, en santé mentale.
Pour des longues périodes? Ou
c'était... Ben à chaque fois, c'était un 2 semaines à peu près.
OK, quand
2-3 semaines maximum. Puis après ça, je retournais...
Tu retournais un peu à la vie normale, mais ça s'est revenu quand même plusieurs fois là, en 10 ans. C'est presque à chaque année, là, si on fait la moyenne, là, ou à peu près. Là.
Ben oui, c'est ça. C'était presque à chaque année. T'sais, j'avais toujours le même fonctionnement qui faisait que quand j'avais mon hospitalisation, après, je voulais avoir une vie normale.
Ouais.
Je retournais travailler 40 heures. J'acceptais difficilement que j'avais besoin d'aide.
Okay.
Donc, c'est ce qui m'amenait à chaque fois à l'hôpital parce que j'avais besoin de me reposer, puis je m'activais, puis tout ça.
Ça allait pas, là? T'sais, tu te sentais pas bien, j'imagine. Est-ce que tu as eu des diagnostics? Est-ce que ça a évolué? Parce que souvent, ça nous permet de mieux se connaître, les diagnostics. Là. T'sais, on peut au moins partir de là puis dire comment je peux faire pour améliorer ma situation si on connaît quelle est notre situation, là?
Oui, bien c'est ça, j'ai eu, dès la première hospitalisation, assez rapidement, j'ai eu des diagnostics. Puis tu sais, tu parles des diagnostics, puis je m'attribue pas de diagnostic maintenant, je me vois plus avec des diagnostics. Mais tu sais, pour en parler, j'en parle pour que d'autres puissent s'identifier puis dire, OK, moi aussi, je porte ça comme diagnostic, puis je peux faire quelque chose. J'ai reçu un diagnostic de bipolarité. J'ai reçu aussi un diagnostic de trouble de personnalité limite. Puis, par la suite, ça s'est transformé. Il y a un moment donné, c'est ça, j'étais de 20 ans à 30 ans, j'ai vécu cette hospitalisation. Puis après, avec le travail que j'ai fait sur moi, ça fait 15 ans que j'ai pas eu d'hospitalisation.
C'est encourageant, ça peut se faire, mais j'imagine que tu as toujours eu la volonté en dedans de toi de dire, écoute, je me sens pas bien, puis pourquoi je me sens pas bien, puis il n'est pas question que je me sente pas bien. Toujours, tu sais. J'imagine que tu devais être tanné, là, à un certain moment, tu as dû dire que je fasse quelque chose pour être mieux, là.
Ben oui, ben c'est ça. Le fait de sortir de mon isolement puis d'aller parler de mon vécu, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien dans le processus de rétablissement, c'est d'identifier mon vécu souffrant puis d'en parler à des personnes de confiance. Comme de nommer le vécu souffrant, c'est quoi que ça veut dire concrètement? C'est les émotions souffrantes. De nommer qu'est-ce que je porte, comme là, j'ai de la peine. Aussi simple que
ouais, reconnaître,
là, reconnaître
son émotion.
Ouais, l'émotion qui est là.
Ouais.
Là, il y a de la peine. Là, tu as de la peine. Ou j'ai de la peine. T'sais.
Là, pourquoi? C'est la prochaine question, c'est pourquoi puis comment je peux faire pour moins en avoir ou la prochaine fois, ou en tout cas cette fois-ci, c'est un peu ça aussi. Là.
Ben ouais, c'est ça, que de nommer tout ça, ça permet de recevoir du soutien.
Ouais.
Là où j'ai pas reçu quand j'étais plus... comme enfant. Donc, je porte une blessure d'abandon et d'insécurité affective qui s'est créée durant la petite enfance.
Dirais-tu que c'est ça qui a causé tes problèmes? Le fait que tu te sentais, tu avais un manque là, au niveau de tes besoins affectifs, tu sais, ils n'étaient pas comblés. Puis comme enfant, c'est important là, de se sentir comblé là, par ses parents, par ses proches.
Ben oui, effectivement. Dans le fond, mes besoins affectifs n'ont pas été répondus suffisamment. Fait que moi, j'ai grandi avec ça, avec ces blessures-là. Puis j'étais incapable, jeune, de nommer précisément qu'est-ce qui s'y trouvait à l'intérieur de moi dans les émotions souffrantes. Donc, j'ai grandi en me créant un personnage comme un masque. On peut dire les masques, on peut dire le personnage, tout ça. J'ai grandi avec ça, puis tout mon vécu souffrant, c'était comme à l'intérieur de moi, comme une boule, en fait, que j'arrivais pas à identifier précisément. Donc, le personnage, comment que je me le crée, c'est principalement en banalisant mon vécu par l'humour. J'étais quelqu'un qui était très drôle. Aussi par des auto-exigences de performance élevée. Ça, je m'en demandais beaucoup pour recevoir de la reconnaissance, tu sais. Puis aussi, j'ai banalisé par le positivisme. Tout allait bien. J'avais 2 semaines en psychiatrie de fête, là, mais tout allait bien. Puis j'avais de la difficulté à nommer précisément toutes ces émotions-là. Ouais. Fait que ce qui fait que de 20 ans à 30 ans, j'ai grandi avec ça. Puis, à un moment donné, c'est comme toute la partie du vécu commençait à avoir besoin d'être entendue. Fait que toute cette partie-là prenait de plus en plus de place. Puis c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée un jour en psychiatrie, parce que le personnage que je m'étais créé avec positif puis tout ça, j'étais plus capable de le porter. Donc, fait que tout le vécu qui commençait à avoir besoin d'être entendu prenait de la place de plus en plus. Donc, c'est comme si c'est arrivé à un point de rupture où le personnage est entré en contact un peu avec ma vraie nature, tout cet espace-là, qui m'a amené à l'hôpital. J'ai vécu principalement la psychose. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, en psychiatrie, à l'urgence. Puis là, tout était déclencheur davantage de ma souffrance, parce que tout le monde arrive en hospitalisation, à l'urgence, puis tout le monde n'est pas bien. Là.
Non, c'est...
Fait que ce passage-là n'a pas été agréable pour moi.
Ouais.
Jusqu'à ce que j'arrive sur l'étage. L'étage est un petit peu plus cool, là. C'est un petit peu plus calme.
C'est quoi l'étage? Je veux dire,
à l'unité.
À l'unité
Oui, c'est ça, exactement, parce que quand je suis arrivée, ben
à l'urgence, c'est la folie pour tout le monde, là, l'urgence. Il y a trop de monde, il y a trop d'affaires, puis là, tu sais, en plus, tu te sens pas bien, là.
Exactement. Fait que moi, tu sais, malheureusement, puis tu sais, c'est important que je le nomme pour ceux aussi, peut-être qui peuvent s'identifier là-dedans. Moi, j'ai vécu la contention, la première hospitalisation. Heureusement, je n'en ai pas vécu d'autres après, là. Moi, je voulais m'en aller parce que c'était souffrant, puis ma souffrance, ça prenait beaucoup de place. J'avais peur, plein de peur, puis tout ça.
C'était pas de toi que tu voulais aller à l'hôpital? J'imagine que c'est des proches qui voyaient que tu n'allais pas bien, qui t'amenaient à l'hôpital?
Oui, c'est ça. La première hospitalisation, oui. Après, moi, je me présentais.
OK,
là.
Après, tu savais là, que ça allait pas bien, fait que tu le sentais, là, j'imagine, les autres fois.
Oui, exactement.
Parce que c'est pas évident. Des fois, la personne, des fois, elle se reconnaît pas comme ayant... elle souffre, puis elle a des problèmes, tu sais. Puis c'est les autres, souvent, qui sont comme obligés un peu de l'accompagner à voir...
Oui, c'est ça, parce que là, les gens voient que l'ambulance est arrivée chez moi, tout ça. Fait que là, c'était insécurisant, tu sais, de voir arriver ces gens-là chez moi. Une fois rendu dans l'ambulance aussi, l'insécurité, toute l'insécurité affective que je portais, là, moi, je portais ça, l'insécurité affective, tout ça prenait de la place de plus en plus. Donc, une fois rendu à l'hôpital, tout ça, je voulais me sauver parce que j'avais plein de peur. Je me sentais pas en sécurité du tout, là.
Qu'est-ce qui a fait, Caroline, qu'est-ce qui a fait peut-être le ou les déclics qui ont fait que t'es bien aujourd'hui? T'es devant moi et maintenant, tu me sens très bien. Puis c'est pas facile ce que tu nous racontes, là. Il y a pas grand monde qui aimerait ça vivre ça, là.
Ben non.
Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic ou des déclics qui ont fait que t'es la femme qu'on voit aujourd'hui?
Des déclics, mettons, des éléments déclencheurs précis, mettons,
qui aurait fait en sorte que tu t'es rétabli pas mal. Tu sais, tu m'as l'air en très bonne forme par rapport à ce que tu me racontes avant.
Oui, c'est
ça.
j'ai un bout de chemin de fait. Le fond, il y a ces 7 ans-là qui ont été difficiles, puis tout ça, beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. C'est souffrant, là, vivre la psychose, très souffrant. Donc,
mais comment tu as fait pour, avoir un peu le contrôle? Tu sembles être en contrôle par rapport à ça. Tu connais ton histoire, mais je pense que tu ne veux pas retourner à ce genre de sensations-là. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as pu prendre contrôle?
Ben, je dirais comme des déclics précis. Tu sais, c'est difficile de nommer des déclics précis. C'est que je le nomme plus comme un processus de rétablissement. Je suis encore en rétablissement.
Ouais.
Dans le sens que je porte toujours des vulnérabilités.
On est tous fragiles. Ben, tout le monde est fragile à la santé mentale. C'est ça qui est encore mystérieux et qui est à démystifier. Tu sais, tout le monde est à risque jusqu'à un certain point. Ça dépend de ce qui nous arrive dans la vie, là.
C'est ça. Tout le monde peut être à risque, là, tu sais,
de développer un problème de santé mentale.
Ben oui, c'est ça. Mais dans le fond, moi, qu'est-ce qui m'a amené c'est aller chercher de l'aide.
Ouais.
Sortir de l'isolement. Ouais. Je me souviens, les premières années, là, j'avais toutes les lignes d'écoute pour l'aide. Je les appelais toutes. Autant que j'en avais besoin.
Ça t'a aidé?
Ça m'a aidé tranquillement. Après ça... les lignes d'écoute. Après ça, j'ai été parachutée dans une équipe en santé mentale.
Proches sont importants aussi?
Les proches sont importants.
Les proches qui quand tu vis dans un milieu qui est, qui est moins stressant puis qui est plus apaisant, ça ne nuit pas, là?
Oui, c'est ça. Sauf que moi, dans mon milieu, j'étais pas bien. Tu sais, avant ça, ça allait, mais aussitôt que j'ai commencé à mal aller, là, ben c'était plus difficile dans l'endroit où j'habitais. En relation avec ma mère, c'était plus difficile. Okay. À ce moment-là, fait que j'avais une travailleuse sociale qui me guidait à travers ça, puis elle me parlait des familles d'accueil. Moi, je passais par les familles d'accueil, des gens qui accueillent des gens en santé mentale.
Ouais.
Donc ça m'a fait du bien dans mon rétablissement aussi. Donc j'ai été un an chez une femme qui accueillait d'autres femmes en psychiatrie. Fait que là, j'avais un cadre, je me sentais aimée, puis tout ça. Fait que là, ça a contribué. Puis j'ai aussi été 2 ans dans un foyer de groupe aussi. Donc ça, ces 3 années-là ont été importantes. Mais le rétablissement continuait. Après, tu sais, il y a eu d'autres périodes d'instabilité jusqu'au moment où est-ce que... Tu sais, c'est un processus, hein, tu sais, de parler de mon parcours. J'ai travaillé aussi, tu sais, pour le CIS de Laval. Je suis aidante en santé mentale. Okay. Maintenant, je suis aussi patiente partenaire pour l'Université de Montréal.
Oh, c'est bien.
Oui, c'est ça. Fait que... j'ai réalisé, quand j'ai travaillé pour le CIS de Laval, comment que je pouvais avoir, en parlant de mon parcours, tout mon vécu, tout ça, souffrant, comment que ça pouvait avoir de l'impact chez les gens qui sont au début de leur établissement. Donc ça, j'ai vu qu'ils se retrouvaient, que ça leur faisait du bien. Puis ils me demandaient souvent, bien, qu'est-ce que tu as mis en place là, pour te rétablir concrètement? Puis arriver avec des exemples précis, tout ça.
Ça
parle aux gens. Fait que par la suite... Après avoir travaillé pour le CIS de Laval, j'ai choisi de poursuivre mon chemin en faisant des conférences dans les organismes aussi.
Et t'es disponible, là.
Je suis disponible, là.
Je veux mentionner comment on te trouve, parce que c'est presque à la fin. Déjà, ça passe
excessivement vite. Oui, ça passe vite. Là, j'en ai plein à dire encore.
C'est ça, mais est-ce que tu peux nous mentionner comment on te trouve pour en savoir plus, puis éventuellement t'inviter ou t'engager ou peu importe.
Ben, grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur...
LinkedIn.
LinkedIn, j'ai de la misère à dire ça. Merci pour
ça. Le réseau LinkedIn. En cherchant Caroline Gervais, puis on te trouve. Il y en a peut-être d'autres des Caroline Gervais, mais si on cherche Caroline Gervais santé mentale, je pense qu'on...
On va voir. Je suis patiente partenaire, on le voit. Je suis conférencière aussi. Je suis aussi thérapeute en relations d'aide, formée du Centre de relations d'aide de Montréal aussi, qui a aussi participé à mon rétablissement au Centre de relations d'aide de Montréal, qui n'est pas loin d'ici. Là.
Merci, Caroline.
Ouais, ça fait plaisir.
C'est un témoignage très généreux. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Puis je te souhaite la meilleure des chances, la meilleure santé possible pour la suite.
Bien, je te remercie beaucoup de ton invitation, Yvan. Ça me fait plaisir. Merci de faire ce que tu fais.
Bien, merci à toi, puis à la prochaine.
Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, ton sujet, la peur du regard des autres.
Oui.
C'est répandu, ça. C'est pas mal répandu. C'est des fois peur du regard des autres.
Je pense que la majorité des gens ont une certaine crainte du regard des autres. Peut-être plus quand on est jeune, cependant. Alors, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Internet. C'est un article qui s'appelle « Comment dépasser la peur du regard des autres ». C'est un article que j'ai pris sur le site Santé Magazine, qui est un site français. Et c'est écrit par une dame du nom de Manon Durand, en collaboration avec une autre dame du nom de Karen Demange, qui est psychologue clinicienne, et Nathalie Garnier, psychologue clinicienne également. Alors, cette Madame Durand nous dit « Rares sont celles et ceux qui parviennent à faire abstraction du regard des autres. Et pour cause, ce regard nous permet de nous construire. Mais lorsqu'il nous paralyse et affecte notre quotidien, il faut agir. Le regard des autres nous accompagne durant toute notre jeunesse. Il est fondateur. En grandissant, il nous permet notamment d'acquérir des codes sociaux et d'apprendre à vivre en société. Mais il finit parfois par devenir pesant. On s'empêche de prendre la parole en public, de répondre à un appel, d'aller à la piscine ou encore d'adopter une coupe de cheveux qui nous plaît. En somme, l'anxiété et le malaise deviennent omniprésents et dictent tous nos faits et gestes. Comment prendre les choses en main pour retrouver un peu de légèreté au quotidien? La peur du regard des autres est bien plus qu'une simple timidité. Elle relève davantage d'une anxiété sociale et peut paralyser notre vie personnelle ou professionnelle. Les personnes concernées peuvent se sentir embarrassées et craindre de paraître stupides ou incompétentes en public. Leur nervosité et leur malaise grandissent dès lors qu'ils sont susceptibles d'être évalués ou jugés par autrui. Plusieurs cas d'espèces sont susceptibles de déclencher ce sentiment. Par exemple, s'exprimer devant un groupe de personnes, faire un discours à un mariage ou une présentation au travail, etc. Ça serait difficile de faire de la radio pour ces gens-là, peut-être.
Peut-être, hein? Ouais, c'est ça.
Un autre cas serait de rencontrer de nouvelles personnes dont on ne connaît pas la façon de penser ou de réagir. Aussi, devoir prendre des initiatives en public et risquer de faire preuve de maladresse, ou encore être au centre de l'attention à l'occasion d'un événement quelconque, ou finalement utiliser les réseaux sociaux et risquer d'être moqué ou critiqué. Les fameux réseaux sociaux.
Ça arrive souvent, d'ailleurs. Il y a des gens même qui en font presque une maladie, qui parlent de sommeil. Là. Ça, c'est grave. Oui, là. Des fois, ça, quand les gens se mettent tous ensemble contre quelqu'un, là, contre des propos, ça peut
devenir très lourd.
Très lourd à vivre,
Alors, quelles conséquences au quotidien, nous dit Manon Durand? Elle nous dit « La peur du regard des autres peut induire une simple gêne ou une véritable crise d'anxiété. Selon le degré de stress, une série de symptômes physiques peuvent saisir les personnes concernées. Une sensation de gorge nouée, des tremblements, des sueurs, des rougeurs, des nausées, une augmentation du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires, voire une sensation d'oppression thoracique. Ça, c'est des douleurs à la cage thoracique. Dans certains cas, l'anxiété est telle qu'elle peut conduire à une perte de connaissance, sans compter l'impact psychosomatique du stress. On ne dort plus, on souffre de douleurs chroniques, etc. Madame Durand nous dit « Nos qualités de vie se dégradent et notre corps finit par être le réceptacle de mots que l'on ne sait pas mettre » justement en mots, M-O-T-S. Madame Nathalie Garnier nous dit « Le sentiment d'angoisse nous hante en permanence et on finit par se replier sur soi-même pour se défendre de toute interaction embarrassante. » On parle de phobie même lorsque le stress et l'anxiété liés aux interactions sociales ne sont plus du tout contrôlables et mènent à des stratégies d'évitement au quotidien. On distingue notamment la scopophobie, soit la peur d'attirer l'attention sur soi en public et d'être jugé, et la blémophobie, la peur du regard d'autrui porté sur notre corps. Toutes deux entraînent une importante gêne sociale et une difficulté à interagir avec autrui. Madame Nathalie Garnier nous dit « La sensibilité au regard des autres peut être influencée par de nombreux facteurs environnementaux et personnels, soit le regard du père, de la mère, des camarades d'école, etc. En tant qu'animaux sociaux que nous sommes, nous avons tous besoin d'appartenir à un groupe et d'être acceptés par les autres. La crainte d'être jugé négativement, rejeté et exclu socialement est donc tout à fait naturelle. Madame Karen Demange nous dit « Certaines expériences passées de critiques, de moqueries ou de rejets peuvent d'ailleurs nous laisser des cicatrices émotionnelles et accroître notre sensibilité au regard des autres. » Maintenant, de nombreux facteurs individuels entrent aussi en compte. Il y en a cinq ici. Premièrement, la confiance en soi et l'estime de soi. Une faible estime de soi ou un sentiment d'infériorité peuvent en effet rendre une personne plus sensible au regard des autres, car elle accorde plus de valeur au regard externe qu'à son propre regard. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, pour le moment.
Oui, et poursuivre plus tard à l'émission le même sujet. Merci, Pierre.
Bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
Nous voici maintenant rendus à la chronique de Catherine. Bonjour Catherine Stassin.
Bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui, ton sujet, le cerveau n'est pas adulte à 25 ans. Tu nous en apprends, là?
Il ne l'est pas.
On nous a toujours dit ça. Hein?
Oui.
Ouais. On nous a dit genre 20 ans, 21 ans, ben peut-être ça. 25 ans dans certains cas. Là, que ça...
C'est ce qu'on dit dans les 25 dernières années, c'est ce qu'on a dit. Et tout ça, c'est dû en fait à une recherche qui a donné des résultats et tout le monde a formulé et vulgarisé le sujet. Et en fait, cette recherche, les candidats s'arrêtaient à 25 ans. Donc, c'est sûr qu'on a arrêté.
On ne fait pas aller plus
voilà,
loin.
Et ça s'est répandu en disant, voilà, le fameux lobe frontal dont on parle souvent va se développer jusqu'à 25 ans. Mais... maintenant, il y a une nouvelle étude qui est sortie dans Nature et on voit que ce n'est pas le cas, en fait. Le cerveau, et heureusement, continue à se développer par après. Et on voit aussi, surtout, ça on savait deviner un petit peu avant, c'est qu'il va se développer de l'arrière vers l'avant du cerveau. Donc, à l'arrière, il y a des mouvements plus primitifs, on appelle ça des mouvements musculaires primitifs, donc qui sont totalement développés, on peut dire, à cet âge-là. Mais plus on va vers l'avant, plus ça prend du temps à développer. Et il y a cette nouvelle étude, c'est intéressant de le dire, c'est, devine un petit peu jusqu'à quel âge on va se développer.
Ça me chicote. 50, je
sais pas. Non, pas du tout, quand même, faut pas
rêver. On va tenter sa chance.
En fait, l'étude dit que l'âge de l'adolescence pour le cerveau, donc le cerveau se développe de 9 ans à 32 ans. Donc, c'est une période identifiée comme la période qui précède et les autres périodes par après.
OK.
On va parler que cette belle période de développement pour le moment.
Mais comme tu disais, il y a toujours un certain développement, mais pas aussi peut-être marquant que...
Oui, on va en parler quand même. Hein. On n'arrête pas le cerveau à 32 ans, on va en parler quand même.
Ouais.
Mais c'est vraiment ce qu'on appelle la période adolescente où, donc vous rendez compte, jusqu'à 32 ans, on voit vraiment un développement continu du cerveau. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, le cerveau, il se développe pendant cette adolescence cérébrale de deux manières. Il va se développer d'abord Oh, chacun dans son petit quartier. On imagine le cerveau devant nous avec toutes ces petites
différentes zones,
branlelles. Et puis, les circonvolutions, eh bien, ça se développe par petits quartiers. Allez, en avant, petit quartier à droite, petit quartier à gauche. Et puis aussi, ça se développe par autoroute. Autoroute entre ces quartiers. Allez, on va d'un quartier à l'autre et ça continue. On crée des connexions. Mm-hmm. Ces connexions neuronales, elles se développent pendant tout cet âge que je viens de vous citer, de 9 à 32 ans. Seulement, au début de la trentaine, qu'est-ce qu'on voit ? On voit à ce moment-là que ça va changer. C'est-à-dire que le réseau va continuer à ajouter des autoroutes. Beaucoup d'autoroutes, des voies rapides, et ça va se complexifier dans le cerveau. Mais maintenant, donc, il va plus développer aussi son petit quartier. C'est-à-dire que les collections qui existent déjà, il va les exploiter, il va les renforcer. Mmh. D'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose qui est hyper novateur, avec beaucoup de nouvelles autoroutes ou beaucoup de nouveaux quartiers. D'accord ? Donc, c'est un véritable tournant. Ils ont remarqué que c'était à 32 ans qu'il y avait ce tournant, où ça change de direction. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter de donner priorité aux autoroutes, comme j'ai dit, il va revenir dans son petit quartier où il avait déjà développé des petites routes dans le quartier. On voit ça, des petites routes de quartier, en fait, des petits chemins, des petites ruelles, etc.
Des routes secondaires.
Voilà. Ouais. Donc, et là, il renforce et il verrouille. Il verrouille des petites voies dans ces petits quartiers. Bon, attention, ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne peut pas... On le voit tous les jours, on reçoit il y a des études tous les jours qui disent « Oui, mais un accidenté de la route, il a réussi, avec beaucoup d'exercices, à retrouver le langage et à réétudier le langage.
Ouais. »
Donc oui, le cerveau, ici, il est neuroplastique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a une certaine plasticité et on peut continuer à développer des ancrages et des petits réseaux.
On peut l'influencer.
Des connexions neuronales.
Oui, on peut l'aider.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça demande beaucoup plus d'efforts qu'à cet âge-là où ça pousse dans tous les sens, les autoroutes et les quartiers.
Ouais.
Donc, c'est un âge idéal pour apprendre un tas de choses, de 9 ans à 32 ans, parce qu'il y a une facilité plastique à le faire. D'accord ? Après, il y a moins de facilité, mais il y a des possibilités. On ne s'arrête pas de vivre à 32 ans, d'accord ? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? C'est qu'on peut continuer à développer notre neuroplasticité quand même. On l'a vu beaucoup, on a vu une chronique avec la musique et que la musique aidait à créer des connexions. Je parle des langues. Apprendre une nouvelle langue, ça vous demande de connecter des zones qui n'étaient pas connectées ou en tout cas de créer de nouvelles petites ruelles, des connexions entre du vocabulaire et puis ce qui est l'idéal quand vous apprenez une langue, c'est d'apprendre aussi un petit peu à cuisiner, à voir des films. Donc, votre cerveau est alimenté de différentes façons sur du vocabulaire, sur des expériences linguistiques et sur une culture. Donc, ça va développer différentes zones, ça va les tenir bien actives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ce n'est pas pour tout le monde, mais on appelle ça les exercices d'aérobie intense. C'est quoi un exercice d'aérobie ? Le terme le dit.
Pour le cerveau, spécialement ?
Pour le cerveau.
Ouais.
Pour continuer à ce que les connexions neuronales se fassent entre quartier, autoroute, quartier et que vous entreteniez ces autoroutes, eh bien, là, ça va être des sports comme la marche rapide, le vélo, la course. Donc, tout ce qui est un petit peu cardio, l'endurance, ça va améliorer votre santé cardiovasculaire et ça va faire, étonnamment, donc le sang va devoir un petit peu... votre cœur va battre la chamade et il y aura une alimentation pulsée,
aussi,
c'est ça, au cerveau.
Avec tout le reste.
Voilà, donc on parle d'apprentissage de nouvelles langues, d'aérobie et des loisirs sur le plan cognitif. Je ne sais pas si toi, tu as un loisir, Yvan, les échecs ou le jeu de dames, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça, le jeu de sudoku.
Non.
Les mots croisés, non, des t'aimes fois, pas ça non plus. Il y a ça en, sur les applis téléphoniques.
Ouais, ouais.
On peut faire du Scrabble.
Ouais, c'est
des
ça.
Choses comme
Scrabble
ça.
Aussi, ouais.
On peut jouer d'autres jeux sympathiques, je ne connais pas. Moi, c'est ceux-là que je connais, c'est à ceux-là que je joue.
Mais tout ce qui demande un peu de, ben, de réflexion.
C'est ça. Donc, il vous demande de réfléchir un minimum.
Ouais.
On ne vous demande pas d'écrire une thèse, mais non. On vous demande aussi, ce qui est important ici, c'est de vous amuser. Hein. Si vous le faites comme une corvée, ça ne va pas être rigolo et puis ça va être contre-productif. D'accord?
La même chose dans le sport. Ils disent souvent qu'on doit faire des choses qui nous plaisent.
Ah oui, j'espère, mon Dieu, parce que si vous courez sans plaisir...
C'est ça qui va faire qu'on va le refaire, parce que si on le fait juste pour le bienfait physique, là, que ça
on va
donne,
traîner la patte.
On va finir par abandonner. Là.
Oui, c'est ça que moi, c'est pas trop mon truc, je dois avouer. Les exercices d'aérobie, comme on dit, mais par exemple, on peut même faire quelque chose qui demande l'endurance, la natation.
Oui.
Ça n'a pas l'air comme ça.
Mais comme tu disais, la marche aussi, tu peux marcher à un rythme rapide.
Vous marchez un bloc lentement et un bloc de rue rapide. Vous allez, ce qui compte, c'est d'être un petit peu à bout de souffle à un moment donné, puis vous reprenez votre souffle. Ça, c'est bon pour le corps, c'est bon pour un tas d'autres choses.
Faut monter jusqu'à un certain niveau, on se laisse redescendre, mais ensuite, on sait qu'on est capable de se rendre là, donc on peut évaluer un peu nos efforts.
Et puis, il y a des gens qui font de la calligraphie aussi.
Mm.
Ça vous demande de réfléchir un minimum et de retenir ce que vous allez écrire. Je vais faire un choix de peinture... Les éléments, ce n'est pas uniquement les échecs. Je veux dire, si vous avez un loisir comme l'aquarelle ou j'essaie de trouver autre chose qui soit moins habituel. Donc, vous avez, le tricot, par exemple, vous devez réfléchir, hein, point à l'envers, l'endroit, calculer les lignes et en avant. Bah, oui, c'est sûr.
C'est un loisir, entre guillemets, mais ça reste quand même quelque chose qui demande un peu d'attention.
Oui, bon, si vous faites un modèle, un minimum construit comme un pull un peu compliqué ou même un bonnet, il faut quand même réfléchir un minimum pour pas que ça ait l'air d'un carré.
Ah ouais, c'est ça, que ça soit beau à la fin.
C'est ça quand même. Je ne parle pas de juste tricoter l'écharpe devant la télé. Ça, je ne crois pas qu'on réfléchit beaucoup.
Ouais.
Alors, maintenant, il faut dire ce qui va nuire à cette neuroplasticité, ce qui va nuire au développement et à l'entretien des autoroutes.
Mm-hmm.
On veut les garder en bon état, bien lisse, n'est-ce pas? Pas comme nos routes.
Ouais, pas comme nos routes ici.
Et pas comme les routes.
Il faut que celles de notre cerveau soient bien entretenues.
Elles vont être belles, je suis sûre.
Oui, il faut.
C'est le stress chronique. Ça, c'est vraiment un ennemi. Donc, un niveau de cortisol élevé, ça va entraver les efforts que vous faites pour entretenir. Donc, évidemment que c'est important de faire du cardio et c'est important aussi... Vous ne devez pas faire de la méditation, mais une activité calmante, une activité qui vous fait du bien. Justement, pourquoi pas un tricot où vous ne devez pas réfléchir, peut-être une simple écharpe, et ça va vous détendre. Chacun a ses trucs pour se détendre. Il y en a qui font la vaisselle, passent l'aspirateur. Ça permet d'évacuer le stress de la journée.
Il y en a pour qui ça les stresse, mais il y en a d'autres pour qui ça les détend.
La vaisselle, c'est ça leur détend. Passage ou des trucs
c'est
comme ça.
Ça
il y en a que ça détend.
Ouais.
Chacun son truc. Hein.
Ouais.
Donc, on voit ici que c'est fini, les fameux 25 ans.
Ouais.
Youpi, et bientôt, dans quelques années, tout le monde dira, oui, jusqu'à 32 ans, le cerveau n'est pas adulte.
Et d'autres et études peut-être... vont peut-être nous dire jusqu'à 50.
Mais on peut rêver, nous, on sera enterrés, mais c'est pas grave.
C'est ça,
mais ce qui est important, je pense ici, c'est que vraiment, les gens se disent que rien n'est coulé dans le béton, qu'il y a des efforts qui peuvent être faits, et donc... Et que aussi, peut-être, au niveau de la justice, les jugements vont peut-être être différents. Oui, mais lui, il n'avait pas encore cet âge-là, il n'avait pas assez de jugement, il a fait des bêtises.
Ah oui, ça pourrait influencer.
Et si en plus, il n'avait pas de soutien parental et qu'il était seul, ça peut être atténuant, je trouve, comparé à un enfant qui avait tout le soutien parental et qui avait eu beaucoup d'éducation. Il était plus apte à juger, peut-être. Enfin, bon, là, j'extrapole un petit peu, mais je trouve que ça pourrait, dans le futur, intervenir, puisqu'on dit déjà maintenant, on en prend compte dans la justice. Alors, n'oubliez pas que votre cerveau, c'est comme un projet de construction et il faut lui donner plusieurs décennies. Et puis, même si vous atteignez vos 32 ans et passé, c'est pas fini. Restez vigilant sur la manière dont vous traitez votre cerveau, parce que c'est un organe comme un autre. Donc, soignez-le, bichonnez-le, et il n'est jamais trop tard pour en faire un bel organe bien entretenu.
La prévention, ça sera toujours bon. Le prévenir, justement, garder le cerveau bien actif, ça. Donc, c'est excellent. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique. On aura des références, comme d'habitude, sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Le titre, donc, de ta chronique, « Le cerveau n'est pas adulte », à 25 ans, une bonne nouvelle.
Oh oui, pour tout le monde.
Ouais, merci, Catherine, et à la prochaine.
Bye-bye.
Au revoir.
Yes! Come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
Come on, let's do this, gangsta.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Hey. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Hey. Donne-moi ton bon vieux fun, ton rock, baby, ta soul, baby. Hey. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, to sick to play, un homme like you. Hey, hey.
Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le monde.
Première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991.
Nous poursuivons au micro avec le segment Espresso allongé. Alors Pierre, le sujet que tu as commencé plus tôt, la peur du regard des autres.
Oui, et on disait tantôt avant de commencer que c'est plus présent chez les jeunes personnes, chez les ados ou les jeunes adultes.
Oui, la plupart vivent ça à l'école. C'est rare que les jeunes, tu sais, ils n'ont pas l'expérience peut-être qu'on peut avoir quand on est plus vieux.
C'est, ça.
C'est dur à vivre des fois.
Des fois, on en vient quasiment malade. T'sais, quand on doit faire un exposé là, devant les autres, c'est pas facile. Alors, c'est d'après un article qui s'appelle « Comment dépasser la peur du regard des autres ?» Et j'ai pris ça sur le site Internet Santé Magazine, un site français. Et l'article est écrit par une dame du nom de Manon Durand en collaboration avec deux psychologues et cliniciennes, soit Mme Karen Demange et Nathalie Garnier. Et tantôt, plus tôt dans l'émission, j'avais commencé une liste de nombreux facteurs individuels qui entrent en ligne de compte pour... c'est ça pour...
Au niveau de ce sujet-là, oui. La part du regard des autres.
Oui, ouais. C'est ça. C'était Mme Demange qui avait commencé cette liste. Alors, il y a 5 points. Je vais relire le premier point. Je parlais de la confiance en soi et de l'estime de soi. Une faible estime de soi ou un sentiment d'infériorité peuvent en effet rendre une personne plus sensible au regard des autres, car elle accorde plus de valeur au regard externe qu'à son propre regard. Deuxième point, d'après Mme Karen Demange, c'est le perfectionnisme aigu. Les personnes très perfectionnistes ont souvent un surmoi très développé. Elles s'efforcent de répondre à des normes très élevées en permanence et ont peur de ne pas être à la hauteur des attentes d'autrui. Troisième facteur, c'est la tendance à se comparer systématiquement aux autres. Cela induit une préoccupation excessive de sa propre image et nourrit la peur du regard des autres. Quatrième facteur, c'est l'hypersensibilité émotionnelle, qui peut aussi entrer en ligne de compte, étant donné que les personnes hypersensibles sont plus enclines à ressentir les émotions des autres et à être affectées par leurs réactions. Finalement, un dernier point par Mme Nathalie Garnier, elle nous parle de l'égocentrisme. C'est lorsqu'on est trop centré sur soi, on pense que tous les regards sont tournés vers soi, alors que ce n'est pas forcément le cas. On se met la pression sans raison apparente. Mais quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que la sensibilité au regard des autres est une réaction tout à fait normale et courante. Elle ne devient problématique que lorsqu'elle affecte considérablement la qualité de vie.
C'est un peu normal qu'on soit toujours un peu sensible à notre environnement. Tu sais, comme tu disais déjà, on est des animaux sociaux, là, dans le fond. Mm-hmm. On vit en société, fait que c'est un peu normal qu'on attend un peu du retour des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent.
C'est de se débarrasser des grands malaises que ça peut causer, finalement.
On peut être sensible à ça, mais il ne faut pas en faire une maladie. Ouais.
Exactement. Alors, Manon Durand nous dit « La peur du regard des autres n'est pas une fatalité. Si elle interfère trop lourdement avec notre quotidien, il est possible de mettre en place divers stratégie pour améliorer notre estime de nous ou développer des compétences sociales et apprendre à gérer cette anxiété. Comme le souligne Karen Demange, l'impact du regard des autres sur notre personne dépend du regard que l'on porte sur nous-mêmes. Si on se sent moche et inintéressant, on risque d'envoyer des signaux en ce sens à notre insu, ce qui ajoute ce qu'on peut aussi projeter sur les autres ce que l'on pense de nous-mêmes. Si je marche, par exemple, dans la rue et que j'ai des complexes sur ma taille et que j'entends quelqu'un rire, je vais automatiquement penser que cette personne se moque de moi, alors que ce n'est certainement pas le cas. C'est ce que l'on appelle une angoisse de persécution. Maintenant, Mme Karen Demange nous dit « La seule solution pour s'en sortir, c'est de travailler sur son estime de soi. Plus on est bienveillant envers soi-même, plus on renvoie une image positive et plus on se fiche de la vie des autres. »
Je dirais, plus on se connaît, plus on connaît nos forces, parce que tout le monde a des qualités, tu sais.
Oui.
Puis des fois, c'est ça, ils se laissent descendre par ce qu'ils ont peut-être comme défaut selon eux. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des qualités. Quand on prend conscience de ça, je pense qu'on est plus
On est sur la bonne route. On est plus fort.
Hein.
Oui. Alors, Mme Demange nous dit, en prenant confiance en soi et en apprenant à s'aimer soi-même, on se libère de la pression du regard des autres. Mme Nathalie Garnier nous dit, vous ne pourrez jamais contrôler ce que les gens pensent de vous. En revanche, vous pouvez contrôler l'impact que cela a sur vous. Maintenant, quelques conseils de Santé Magazine pour vous détacher du regard des autres. On nous dit, premièrement, commencez par vous convaincre que l'opinion des autres ne définit pas votre valeur en tant que personne. Vous avez le droit d'être vous-même et de suivre votre propre chemin. Deuxièmement, rappelez-vous que tout le monde se soucie du regard des autres à un certain niveau. C'est tout à fait normal, étant donné notre besoin d'appartenance sociale. Troisièmement, essayez ensuite de prendre conscience des moments où vous vous préoccupez du regard des autres. Demandez-vous dans quel contexte apparaissent vos angoisses. Ici, elles sont basées sur des faits réels ou sur des interprétations négatives. Quatrièmement, apprenez à être bienveillant envers vous-même. Faites preuve de la même gentillesse et de la même compréhension dont vous feriez preuve envers vos proches. Madame Nathalie Garnier nous dit « Nous avons tous nos points forts et nos points faibles. Personne n'est parfait et cela ne sert à rien de prétendre le contraire en se vertuant à paraître sous son meilleur jour en permanence. » Cinquièmement, évitez de vous comparer aux autres. Identifiez vos propres forces. Mais je dois m'arrêter ici.
Oui, on mentionnera le lien de ce, dans notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Merci Pierre pour ce sujet, la peur du regard des autres.
Couché dans le noir devant la tige. Le froid s'installe autour mon cou. J'ai rien qu'envie de rester dans mon lit pendant que la planète fait son bruit. T'es apparu comme une ovni par la fenêtre au milieu de mon champ. Je passerai mes nuits à regarder ta vie, tandis que tes yeux volent tout mon temps. Oh belle lumière, j'ai trois poils à devenir fou. C'est pas assez de poils pour l'hiver. Si tu me réchaufferais le cou, je t'offrirais quelque chose à croire. On tuera le temps comme une saison, en t'as les souvenirs d'hier, en attendant que la neige fonde. Trouvera bien quelque chose à faire. Et toi tu danses dedans la nuit et j'oublie tout pour un instant. Le son de tes pas font aller méchant bruit quand ton corps bouge comme l'océan. Oh belle lumière, j'ai trois poils à devenir fou. C'est pas assez de poils pour l'hiver. Si tu me réchaufferais le cou, je t'offrirais quelque chose à croire. On tuera le temps comme une saison, on t'a les souvenirs d'hier. En attendant que la neige fonde, se trouvera bien quelque chose à faire. Se trouvera bien quelque chose à faire. Les satellites sont en orbite. Je vois rien que la lune de temps en temps. Et tes rayons transpercent toutes les météorites quand tes yeux brillent dans mon champ.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine.
Oui.
La première, Pull Marine.
Oui, de Faust.
Oui, on a entendu Femme Lady.
De BB Club.
On a écouté Femme Like You.
De Camaro.
Il y a une tendance, c'est femme. Et puis, on a entendu à l'instant OVNI.
De Matt Boudreau.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Bien, bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour ton sujet que tu as amené à l'émission cette semaine, la peur du regard des autres.
Mm-hmm.
Merci pour ça. Notre notre invitée en début d'émission, Caroline Gervais, nous a parlé de sécurité affective. Elle a témoigné à ce sujet-là, a vécu beaucoup de difficultés, mais honnêtement, elle donne espoir dans son témoignage. Alors, merci, Caroline, d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Sa chronique, Le cerveau n'est pas adulte à 25 ans. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. We'll be right back.